I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Marseille vue sur les pauvres, épisode 4. Balade avec Michel. Bienvenue dans Programme B.
Les politiques, c'est des distributeurs de privilèges, c'est tout. Comme il y a des distributeurs de préservatifs, eux, ils distribuent des privilèges ou ils distribuent des subventions. C'est tout ce qu'il faut. Ben oui.
Pour ce quatrième et dernier épisode, on part se balader à Noailles avec le sociologue Michel Peraldi. Depuis plusieurs années, il observe de près Marseille et sa vie politique. En 2005, avec son compère, le journaliste Michel Sanson, il publiait « Gouverner Marseille ». Le mois prochain, il sort le tome 2 « Marseille en résistance ». Pour Programme B, il livre quelques-unes des réflexions issues de son travail. Dans les rues de Noailles, on discutera gouvernance et images pour comprendre les enjeux derrière cette nouvelle forme de tourisme qui modifie profondément le quartier et la ville.
Moi, je travaille pour Binge Audio, qui est un média national, qui n'est pas un média marseillais. Et on fait pourtant un sujet sur Marseille, carrément on fait 4 épisodes. Et vous avez écrit dans le premier tome de Gouverner Marseille plusieurs pages sur la vision de Marseille qu'ont les médias nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots? Est-ce que ça a évolué depuis que vous avez écrit votre livre, ou est-ce qu'il y a toujours un attrait particulier pour Marseille?
Il y a deux choses qu'il faut dire à mon avis. Première chose, c'est que Marseille a été une ville mondiale, économiquement. À l'époque où Paris était une capitale, mais c'est tout, politique, pas une capitale économique, connue dans le monde entier. Ça a créé une réputation, ça a créé ce que moi j'appelle un patrimoine immatériel qui est la réputation de Marseille dans tout le monde entier, en Argentine, partout on connaît Marseille. Et donc ce capital, c'est un capital que beaucoup de gens s'approprient toujours, parce que ça a toujours une certaine valeur au plan imaginaire, au plan littéraire, au plan cinématographique, etc. Et je pense qu'il y a toute une bourgeoisie moyenne, toute une classe intellectuelle qui aime bien s'approprier cette réputation mondiale de Marseille, etc., qui, encore une fois, n'est pas banale dans l'ensemble des villes françaises. Ça, c'est la première chose. Et je m'arrête parce que je vais mourir.
Non, on ne veut pas. Ah, mais c'est ici?
Ouais, c'est là.
Ah, mais oui, alors je suis déjà passée par ici.
Déjà passée, c'est là.
Mais j'ai jamais pris
voilà,
le pain.
Le pain.
Bonjour.
Voilà.
Je peux vous en prendre une?
Oui, galette.
Non, je dis, il ne faut pas dire que le pain est bon, parce que sinon, ils vont doubler le prix.
Ah oui, bien sûr.
Hein? Non?
Ah, c'est les mêmes prix.
Ah, déjà? Merci, attendez.
Voilà. On n'a pas augmenté
pas
encore.
Non, Hadek.
C'est quoi?
Hadek, c'est un micro. نخدم نخدم صحفية باي باي بو كوراج
شكرا ميرسي على بون هان
ا با اتاندي اون فا فوار اون غوتي دونك اون ديزي alors
donc ça c'est la première chose que je voulais dire sur la réputation de Marseille, c'est un vrai capital. Et donc il y a des gens qui prennent ce capital au même titre que ça serait un capital économique, c'est pareil, c'est un capital culturel que beaucoup de gens s'approprient.
C'est vraiment magnifique. Bonjour. Cette semaine, je vous emmène sur la Côte Bleue, qui porte bien son nom. Marseille, la trépidante cité phocéenne, et ses alentours seront vraiment mis à l'honneur dans mon voyage dans les Bouches-du-Rhône. Alors, je vous propose de découvrir différentes facettes de cette magnifique région au travers de ses festivités, de ses particularités, mais aussi de ses personnalités. Vous verrez que ceux qui vont m'accompagner ne manquent pas de tempérament. Voilà, cure de soleil, d'azur et de bonne humeur. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'analyse souvent, ce que j'appelle l'exotisme de proximité, qui est le fait que Marseille est un lieu considéré comme exotique. On peut discuter de cet exotisme parce qu'il est fait de choses très compliquées. Mais Marseille est un lieu exotique de proximité. C'est-à-dire que c'est probablement la ville culturellement la plus lointaine, la plus proche des villes lointaines en termes de culture. Voilà, on peut dire ça comme ça. On disait ça de la Corse à une époque. On disait la Corse, c'est la destination la plus exotique, la plus proche des îles lointaines. On disait ça de la Corse. Et Marseille, c'est un peu ça. C'est plus facile de venir à Marseille qu'à Marrakech. Ça coûte à Ouigo. Enfin, les journalistes ne prennent pas Ouigo. Les journalistes prennent un TGV à 100 euros. C'est beaucoup moins cher que d'aller à Marrakech. Voilà, quand c'est la princesse qui paye, quoi. Donc,
ce qui explique les numéros exclusifs bien sûr, sur Marseille.
Ce qui explique aussi, c'est que dans tous les journaux que je connais et avec lesquels j'ai un peu travaillé, il y a toujours un Marseillais de service, c'est-à-dire quelqu'un qui est originaire d'ici ou qui est originaire de pas loin et qui profite de l'occasion pour venir visiter sa famille ou ses parents à l'occasion ou qui revient acheter du pain à Noël ou des trucs comme ça.
Et ça a un impact parce que les journalistes, ils écrivent pas que pour eux-mêmes, il y a des gens qui les lisent aussi. Donc ça impacte sur l'image qu'on a de Marseille.
Bien sûr, et y compris parce que probablement que ces journalistes sont nostalgiques d'un Marseille et qu'ils ont connu et qu'ils essayent de retrouver dans leur visite de Marseille aujourd'hui. Et quand ils ne le retrouvent pas, ils le réinventent. Moi, je me souviens d'un éditorial qui m'avait particulièrement agacé. C'était National Geographic. Et il y avait un édito sur le Marseille cosmopolite, les flots de voyageurs. Il n'y a plus un voyageur qui vient à Marseille, il n'y a plus de ligne de bateau. Donc je veux dire, c'était complètement... C'était un éditorial des années 30. On avait l'impression qu'il réécrivait comme dans les années 30, sauf qu'il l'écrivait dans les années 90-2000 et que ça avait plus de sens. C'était complètement ringard, voilà. Donc une vision ringarde de Marseille. Pas forcément méchante, pas forcément stigmatisante, mais ringarde, voilà.
Et est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut attirer une partie des nouveaux touristes qui viennent
sûr,
à Marseille ?
Bien sûr, je veux dire, bien sûr. Je pense que c'est une image fabriquée. Moi, ce que j'appelle le syndrome du château d'If. Il y a quand même des millions de gens depuis des siècles qui visitent le château d'If en voyant le trou par lequel on a envoyé le cercueil de l'abbé Faria, qui voient et visitent la cellule du comte de Monte Cristo et qui sont émerveillés de ce truc qui n'a jamais existé que dans le roman de Dumas. Le château d'If n'a jamais vu l'histoire qu'a inventée Dumas, elle est inventée de toutes pièces. Ça n'empêche qu'on visite les lieux comme s'ils étaient réels. Et bien, Marseille, c'est un peu ça. On visite le bar de la Marine comme étant le lieu dans lequel Pagnol a filmé, etc. Pas du tout, Pagnol a filmé en studio, c'est comme Plus belle la vie. C'est 80% filmé en studio. Mais on visite Marseille comme si Marseille était à l'image de ce qu'on a filmé en studio.
Ce film est presque un des premiers films sonores.
Et Marius a été, comme il disait à cette époque, 100% parlant. D'ailleurs, le film a été tourné par les Américains, mais au studio Paramount à Joinville, que Bob Kane dirigeait à cette époque-là.
C'est Alexandre Corda qui est venu tourner.
C'est Alexandre Corda qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius. Et d'ailleurs, Rému était furieux. Il disait, ils ont fait venir un tartare d'Olive Oil pour nous faire un film marseillais.
Le bar de la Marine n'a jamais existé. Il a été créé après le film. Après le succès du film, on a créé quelque chose qui s'appelle le bar de la Marine. Mais le bar de la Marine chez Pagnol, c'est du studio. Donc voilà, et Marseille, comment dire ?
Vous dites une étoile morte.
Ouais, mais ça, c'est sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, c'est une étoile morte. Je pense que les touristes viennent ici parce que, encore une fois, ils sont attirés par une réputation. Alors oui, c'est étoile morte. C'est-à-dire que Marseille est aujourd'hui très loin de la réputation qu'elle a eue à l'époque où c'était un phare du monde.
Ça, c'est fini. Le banditisme, il n'y en a pas plus, par exemple, qu'en Seine-Saint-Denis.
Il n'y en a pas plus qu'à Saint-Denis, pas plus qu'à Aubervilliers, etc. On en a fait beaucoup parce que... Ça, c'est la troisième chose qui fait la réputation de Marseille et qui est, à mon avis, le côté le plus désagréable de cette histoire de réputation. Marseille, c'est une des dernières villes d'Europe dans lequel le centre est encore occupé par des mondes populaires. Moi, je ne dis pas la pauvreté, parce que ce n'est pas que de la pauvreté, c'est des mondes populaires. Voilà, c'est toutes les migrations qui font couche sur Marseille et qui sont là. C'est des mondes populaires, hein, c'est des commerçants, c'est des travailleurs, etc. C'est des Chibani, tout ce qu'on veut. Et ça, alors ça vaut à Marseille à la fois un peu d'exotisme. Quand on a envie de certaines bourgeoisies ou certaines classes sociales ont envie de dénoncer les mondes populaires, de les stigmatiser. On prend Marseille comme exemple, parce que là, les mondes populaires, ils sont là. Là, on les voit, on les sent. Là, les bruits, on les a. Les odeurs, on les a. Et donc, quand on veut stigmatiser les mondes populaires, on vient à Marseille, on est sûr qu'on va avoir tout que du bonheur pour stigmatiser. Donc ça, c'est le mauvais côté de la réputation de Marseille.
On continue par là-bas ?
C'est peut-être mieux par là,
plutôt par là ? Ok. C'est marrant, j'avais fait un reportage pour la Provence ici. À ce restaurant-là.
Là ?
Oui, celui-là, il a un peu changé l'intérieur.
Ah, c'est un restaurant italien, tu sais, j'ai
jamais vu. Eh ben non, en fait.
Ah non,
c'est un restaurant algérien.
Ah, d'accord.
Et donc, j'ai suivi le match de l'Algérie avec eux, parce que c'était que des Algériens.
D'accord.
Avec une déco napolitaine, j'ai dit dans le journal, le plus napolitain des restos algériens.
Ouais.
Parce qu'ils aiment bien le côté mafia italienne et tout. Mais quand même, quand il s'agit de manger...
Oui, faut pas déconner. Le principe de réalité nous rattrape. Il y avait un magasin qui était là, que j'aimais beaucoup, moi, qui s'appelait Arax. Et donc, c'était un magasin qui était assez représentatif de ce qu'était Noailles, qui a toujours été un lieu de bouffe, un lieu de centralité. C'est les Halles, au moins les Halles, quoi, je veux dire. Il y avait des Halles, d'ailleurs, sur la place des Halles de la Croix, ça s'appelle la place des Halles de la Croix, parce qu'il y avait des Halles façon, comment il s'appelle, Baltar, des Halles en fer, etc. C'était des Halles aux poissons, qui étaient juste installées là. Sauf que, au fur et à mesure que Marseille se réduit, que Marseille se normalise, se banalise, parce qu'on voit des supermarchés partout, des marques franchisées partout, etc., petit à petit, ça devient un conservatoire. Ça devient une espèce de conservatoire de ce que t'es les mondes populaires et la centralité populaire dans les années 50, etc. Et c'est très triste. Mais c'est l'évolution du monde qui est comme ça, peut-être. Je veux dire, un jour, le monde ne sera plus que Aix-en-Provence, c'est-à-dire un supermarché à ciel ouvert, avec des galeries marchandes qui n'ont pas l'air d'être des galeries marchandes, mais qui sont des galeries marchandes à ciel ouvert, avec des marques franchisées partout. Voilà. C'est peut-être ça l'avenir du monde. Hein. C'est un grand mall à l'américaine. Voilà. Moi, je me souviens des malls à Los Angeles. C'est des villages mexicains reconstitués. Des anciens villages mexicains avec des maisons, avec des poutres en bois, des peintures, etc. C'est très exotique. C'est pas du tout des supermarchés comme chez nous. C'est très travaillé, très architecturé. Ben, on est peut-être en train de virer à ça aujourd'hui. Ça, c'est tout Marrakech, ça.
Voilà. Et donc, bon, pour ceux qui ne voient pas, parce que c'est quand même de la radio, il y a beaucoup de sacs, de... de décorations d'intérieur, etc. Et ça, c'est plutôt des magasins qui s'adressent aux touristes.
Ça vient de comment ça s'appelle, Safi. C'est de la poterie Safi marocaine. Les tapis, c'est des tapis qui viennent de la classe. Moi, c'est ce que j'appelle de la gentrification par le bas, ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui devaient être dans le quartier, qui petit à petit comprennent qu'il y a une autre population. On est à Marrakech, là. Franchement, c'est les produits qu'on voit à Marrakech aujourd'hui. Je pense qu'ils vont s'approvisionner là-bas et tout. Donc ils ont compris qu'il y avait une demande touristique, mais pas forcément. Je peux imaginer que des gens de la petite bourgeoisie, le mot va être fort, la petite bourgeoisie algérienne à Marseille, la petite bourgeoisie de la diaspora algérienne qui existe, hein. Les Algériens sont arrivés en 1907 à Marseille. Hein. Donc il y a des Algériens aujourd'hui qui ont 9 générations à Marseille. Ils ont eu le temps de devenir avocats. Ils ne sont pas tous dealers ou chômeurs. Hein. Il y en a qui sont devenus avocats, il y en a qui sont employés des postes, il y en a qui font les écoles de journalisme, etc. Donc je veux dire, il y a une petite bourgeoisie, je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, il y a une classe moyenne algérienne sur Marseille. Et je peux très bien concevoir qu'ils vont acheter ça, au même titre que les touristes, etc. Donc il y a gentrification dans le quartier, parce qu'il y a une guerre ouverte des institutions contre ce quartier. Ça fait 50 ans que ça dure. Les notables marseillais... ont, depuis 50 ans, ouvert un front guerrier contre cette présence populaire dans le centre de Marseille, qu'ils considèrent comme une nuisance. Ce en quoi ils n'ont rien compris, ce en quoi ils ont tort, ce en quoi ils font une imbécilité historique. Ils ont détruit Belzunce, ils sont en train de détruire Noailles. C'est une imbécilité historique qui a duré 50 ans.
Noailles.
Comment ils détruisent Noailles ? Eh bien, en le laissant tout simplement se dégrader. En le laissant se dégrader et en laissant jouer la logique spéculative, qui est une logique spéculative très hard, très hard discount. C'est des marchands de sommeil, c'est des petits spéculateurs aux petits pieds qui n'ont pas les moyens de leur politique. Et donc, du coup, ce qui passe pour une rénovation est en réalité une dégradation du quartier. Parce que ce n'est pas une vraie rénovation. C'est une rénovation à petite échelle, qui est faite par des petits affairistes sordides, des petits voyous, etc., des petits marchands de sommeil. Et donc, eux n'ont pas les moyens d'une vraie politique de rénovation, comme ça s'est fait à Paris ou ailleurs, par exemple. Donc, même si je suis hostile à la rénovation, même celle qui est faite ici, c'est du hard discount par rapport à ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire, c'est une rénovation à petit prix. Donc, c'est comme ça qu'ils dégradent le quartier, en réalité. En le laissant se dégrader ou en le laissant ouvert à des spéculations de bas niveau. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils ont dégradé Belzunce.
C'est quoi la logique politique de faire ça à Noailles ? Noailles, c'est central pour les gens qui sont jamais venus à Marseille.
La logique politique, elle est fondée sur une illusion qui est une illusion de petite bourgeoisie subalterne. C'est-à-dire qu'on a l'illusion de croire qu'on va faire monter les prix à Marseille et donc on va s'en mettre plein les poches. Parce qu'on a viré le monde populaire et qu'on a ouvert les quartiers à une possible spéculation. Manque de peau, la spéculation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur Marseille. Les bourgeois, ils ne viennent pas à Marseille. Il y a un livre, moi, que j'aime beaucoup, sur Paris, qui est fait par une sociologue qui s'appelle Anne Clerval. Et elle montre très clairement que la gentrification à Paris, elle est le fait, non pas de toutes les bourgeoisies, mais d'une bourgeoisie particulière, qui est ce qu'elle appelle les nouvelles bourgeoisies créatives, les nouveaux bobos, on va dire. Bon. La vraie bourgeoisie parisienne, ceux qui habitent à Neuilly, Auteuil-Passy.
Auteuil-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Passy, tel est notre ghetto.
Ceux qui ont gentrifié à Paris, c'est une nouvelle bourgeoisie qui a émergé dans les années 70 et qui cherchait sa place et qui prenait des risques en matière foncière, en matière immobilière. Elle appelle ça les nouvelles bourgeoisies culturelles, des industries culturelles, je ne sais plus comment elle dit. Donc la gentrification suppose qu'il y ait cette bourgeoisie pour faire de gentrification. S'il n'y a pas cette bourgeoisie, il n'y a pas de gentrification. À Marseille, elle n'existe pas, cette bourgeoisie. Elle commence à exister un tout petit peu depuis les années 2010, où on voit apparaître les jeunes créatifs, où on voit apparaître les industries de la communication, Plus belle la vie, machin, la friche à belle de mai. On voit apparaître ça, mais depuis 2010, c'est très récent. Et en plus, ce qui apparaît sur Marseille, c'est que ces créatifs, c'est des jeunes précaires. C'est pas des bourgeois. Donc, ils sont incapables de gentrifier le quartier. Elle renouvelle même les mondes populaires. Elle les fait exister autrement, elle les rajeunit, elle les revivifie, elle les fait exister. Et c'est ça que la mairie ici ne comprend pas. Les notables ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils y voient des mondes populaires, ils y voient de la crasse, ils y voient de la misère, ils y voient de la saleté, ils y voient de la dangerosité, ils y voient de l'insécurité, etc. Alors que pas du tout. C'est pas ça qu'il faudrait voir. Ce qu'il faut voir, c'est des mondes populaires qui se renouvellent constamment, qui font du commerce, qui vendent, qui ont des entreprises, etc. Et donc, il faudrait s'appuyer sur cette classe populaire pour redynamiser le quartier, pour le rénover, parce que les maisons, il faut les rénover, sinon ça s'écroule. Hein. Donc il faudrait s'appuyer sur eux. Or, la municipalité, toujours encore une fois, la municipalité, c'est pas que Godin, c'est avant lui même de faire, c'est toujours mis dans une position guerrière par rapport à ces mondes-là. Pour une raison simple, je réponds à la question quand même, c'est qu'ils votent pas pour eux. Aujourd'hui, pour la quasi-totalité de ce que moi j'appelle les nouvelles classes créatives, la politique devrait être une technique. C'est-à-dire que ça devrait être des fonctionnaires payés par l'État qui font leur boulot, point barre, et puis c'est tout. Et pas des notables qui plastronnent et qui font...
Vous vous dites pas homme politique, hein, vous dites notable.
Ouais, moi je dis notable, ouais. Je trouve que c'est un mot qui leur va mieux. Voilà.
On peut descendre un peu là par là ?
Parce que les hommes politiques, t'as oublié les femmes.
C'est vrai.
On va par là-bas, comme ça on est plus au calme, on va là-bas au bout. Okay. Donc ici, c'était la place des Halles de la Croix. C'est là où il y avait des grandes halles qui ont été virées, je ne sais pas où, démontées, et sur lesquelles on vendait le poisson à Marseille. C'était un grand marché au poisson. Donc aujourd'hui, on est toujours sur du marché. Il n'y a rien qui a changé de ce point de vue-là. Hein. Voilà. Sur les municipales à Marseille, qu'est-ce qu'on peut dire ? La première chose qu'on peut dire, c'est que la politique aujourd'hui, elle est révélatrice de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la fracture entre les nouvelles classes créatives marseillaises et la politique traditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas simplement la fracture entre des notables de droite et puis des gens de gauche. C'est une fracture entre un système politique dans son entier qui n'est absolument plus représentatif de ce que ces gens-là estiment être le politique. Donc il y a une fracture complète aujourd'hui. Il y a une fracture entre les fonctionnaires territoriaux et les élus. Il y a une fracture entre les nouvelles classes créatives et les élus, les notables, etc., etc. Il y a une fracture terrible entre les artistes, tous ceux que tout le monde vénère aujourd'hui à Marseille. Chaque fois qu'il y en a un qui arrive, on le classe au monument historique, hein, je veux dire, les artistes, les créateurs, les chanteurs et tout. Mais il y a un fossé terrible entre ces gens-là et la politique. Mais pas les politiques au sens individuel, personnel, la politique en tant que système.
Ma satisfaction, c'est que les Marseillaises et les Marseillais m'ont manifesté une nouvelle fois, et d'une manière très forte, leur confiance.
Moi, je le dis souvent parce que c'est une évidence mathématique, Godin a été élu et il est porté à Marseille par 95 000 personnes.
Dans une ville de 860 000 habitants, deuxième ville de France. Alors allez-y, posez votre question.
Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les bons chiffres de la droite, on les doit à Jean-François Copé? En clair, est-ce qu'il est conforté aujourd'hui à la tête de l'UMP pour vous?
Parlez-moi de Marseille. À Marseille, on les doit à Godin et ça me suffit. Et avec tout le succès que nous avons, pourquoi voulez-vous commencer encore une animosité avec tel ou tel contre-Copé? Ça suffit.
La moitié des gens ont voté et dans cette moitié, il n'y a que la moitié qui a voté pour Godin.
Bien sûr. 95 000 personnes. Il y a 370 000 inscrits, je crois, sur les listes électorales à Marseille, 400 000 peut-être. Je veux dire, donc la moitié vote, parce qu'il y a 45% d'abstention, fait 200 000. Il reste une moitié, qui a, même pas une, un peu moins qu'une moitié, qui a permis de faire élire Godin. Godin est l'homme de 95 000 Marseillais, qui sont pour l'essentiel dans les quartiers sud, et qui sont les bourgeoisies dont ils portent les intérêts. Faut, de temps en temps, il faut être un peu marxiste, hein, ça fait du bien. Godin porte les intérêts, moi, de ce que j'appelle une petite bourgeoisie affairiste, qui sont des commerçants, des promoteurs immobiliers. On a sur Marseille une radicalisation de ce système qui fait que si Godin est élu par 95 000 Marseillais, Vassal va être élu par combien ? 80 000 ? 82 000, 95 000, mais on va retrouver le même système. Et donc on va se retrouver dans une position très paradoxale où on va avoir un maire qui est de moins en moins représentatif des intérêts marseillais. Bon, mais je pense que Vassal va être élu avec une toute petite et très étroite majorité, bon, sauf, je sais pas quoi, sauf accident. Et quand elle va se retrouver avec cette toute petite majorité, soit elle va pouvoir s'appuyer sur En Marche s'ils existent. Rien n'est moins sûr, parce que je pense qu'ils vont très peu exister d'ici les municipales, et donc elle va s'appuyer sur qui ? Sur le Front National. Et donc on va avoir des alliances, alors qui seront secrètes, tacites ou explicites, entre la droite traditionnelle, qui est celle de Vassal, et le Front National, qui est aujourd'hui une des premières forces politiques sur Marseille, parce qu'ils sont en position d'être élus à 30 ou 35% sur 4 secteurs dans la ville. Quand on écoute le Front National, ce n'est qu'un discours de haine. On dit « Godin », alors ils prononcent les noms « Vassal », « Godin », c'est un discours haineux. Et c'est avec ça qu'ils sont élus. Ils ne sont pas élus sur leur politique, parce que leur politique, c'est rigoureusement la même. Ils sont aussi clientélistes, aussi magouilleurs, aussi voyous que les autres quand ils sont élus. Sauf que c'est dans leur manière de les dénoncer qu'ils se marquent, ils marquent leur différence. Les politiques, c'est des distributeurs de privilèges, c'est tout. Comme il y a des distributeurs de préservatifs, eux, ils distribuent des privilèges ou ils distribuent des subventions. C'est tout ce qu'il faut. Ben oui.
Cette balade avec Michel Peraldi aura été de l'été ma seule visite guidée de Marseille. Dans ce quartier pauvre où les prix flambent sur les nouvelles terrasses avec une vue directe sur les murs qui tombent. Dans une ville marquée par un effondrement, un drame qui a fait 8 morts, qui reste gravé dans la mémoire des Marseillais. Dans la torpeur de l'été, on a parfois vite fait d'oublier que le tourisme est aussi l'un des vecteurs de la gentrification qui gagne nos centres-villes, et ce, peu importe si la justice ou la décence s'en trouve quelquefois bousculée. Nos vacances d'été, coquillages et crustacés, peuvent laisser une trace et un goût amer. Mais découvrir la ville sans l'abîmer n'est pas seulement de notre responsabilité. En mars auront lieu les municipales. Pour l'équipe sortante, il faudra se justifier, et pour le ou la nouvelle maire, il s'agira à Marseille d'un gros chantier, un de plus.
Marseille, vue sur les pauvres, c'est une série de Radija Zeroali, réalisée par Thomas Play pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.